Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bienvenue dans l'épisode 47 du podcast Productif au quotidien. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Jérémy Coron. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial, la caféine. Autrement dit, notre consommation de caféine. Et le titre de cet épisode, c'est « Pourquoi tu devrais arrêter de boire plusieurs cafés par jour? » Alors là, vous allez me dire, Mathieu, c'est quoi le rapport? Je pensais ici que c'était un podcast de productivité, que tu allais nous montrer comment organiser mon agenda, gérer ma to-do list. Eh bien, j'aimerais vous dire, et je l'ai souvent dit, que la productivité, c'est un sujet qui est extrêmement large. En fait, la productivité, c'est la science de la haute performance. Alors, la productivité, c'est tellement plus que juste le côté pratico-pratique de ton organisation, organiser ton bureau, tes courriels, ta paperasse, ces choses-là. Non, la productivité, c'est en fait, c'est optimiser sa vie, c'est la gestion complète de ta vie, y compris tes habitudes de vie, la consommation de certains aliments, certains produits comme le café, la caféine, ton hydratation, ton sommeil, l'activité physique, ta psychologie, ton mindset et aussi évidemment tout l'aspect de ton organisation, tes méthodologies de travail. Ça, les amis, c'est la productivité et la caféine est une dimension qui est très importante. J'aimerais vous dire que lorsqu'on boit du café de façon machinale, de façon inconsciente, c'est-à-dire que, mettons, depuis des années, on se boit 4 cafés par jour, j'aimerais vous dire que ça peut être quelque chose de contre-productif et même, le mot est mal choisi, non pas que ça peut, mais c'est quelque chose qui est contre-productif. Notre consommation de café, alors que parfois, ben, on aime, comme je pense pour la majorité des gens, on aime consommer du café dans le but d'en retirer une certaine stimulation énergétique. On va être plus alerte, plus réveillé, plus efficace dans nos tâches. Eh bien, j'aimerais vous dire que lorsqu'on consomme mal notre café, ça va avoir un effet qui est contre-productif sur notre productivité et ça peut également même avoir des conséquences sur notre santé à long terme. Alors bref, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec mon invité Jérémy Coron. Jérémy, ben, peut-être que vous le connaissez, il est déjà venu sur le podcast Productif au quotidien à l'épisode numéro 29 lorsqu'on avait parlé là du sujet d'optimiser son sommeil. Ce qui est intéressant avec Jérémy, c'est que comme lui, il se plaît à se nommer, c'est un expert en optimisation des performances cognitives, donc les performances de notre cerveau. Donc Jérémy, lui, il étudie à fond le fonctionnement du cerveau et il donne toutes sortes d'astuces, toutes sortes de trucs pour justement optimiser nos performances cognitives. Alors Jérémy, sur son podcast, sur son site web, parle de nutrition, de sommeil, de mémoire, d'activité physique, de prise de décision, caféine, toutes ces choses-là. Alors c'est vraiment un spécialiste et j'aime vraiment le recevoir ici. D'ailleurs, ça va probablement être un collaborateur régulier ici sur le podcast Productif au quotidien parce qu'il apporte quelque chose d'unique. Et alors, ça va être une excellente discussion. Jérémy va nous parler, c'est ça, de la bonne façon de consommer de la caféine selon lui. Alors, voilà, assez pour mon introduction. J'espère que vous êtes prêts comme moi je le suis. On passe tout de suite de l'autre côté. Je vais aller retrouver Jérémy pour commencer cette discussion avec lui. Alors, je suis avec Jérémy Coron aujourd'hui. C'est mon privilège de le recevoir, de vous le présenter à nouveau. Jérémy est venu sur le podcast un peu plus tôt, à l'épisode 29. On avait parlé de sommeil ensemble et aujourd'hui, il revient et on va aborder vraiment un sujet qui est super intéressant et tellement important et même sous-estimé, je dirais, dans toute cette grande discipline qu'est la productivité. On va parler de notre consommation de caféine. Alors, Jérémy, bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien aujourd'hui.
Merci pour l'accueil, Mathieu, et je vais très bien. J'espère que tu vas bien, toi également, de ton côté.
Oh oui, je viens de me boire 2 cafés, alors je vais très bien. Blague à part, on va... C'est ça, exactement. Je vais me faire corriger aujourd'hui si c'était vraiment le cas. Alors, écoute, aujourd'hui, on va parler de caféine, et justement... toi et moi avons eu, à un certain moment donné de notre vie, une prise de conscience par rapport aux effets que peut avoir la caféine sur nos performances. Et tous les deux, ben, on aborde le sujet de la performance, évidemment avec des angles différents. Toi, c'est plus au niveau de la performance cognitive. Moi, c'est la performance dans ton quotidien, au travail, etc. Mais la caféine est un facteur qui, lorsque c'est mal consommé, par exemple, lorsqu'on boit 5 cafés par jour, tous les jours, pendant 30 ans de notre vie, au final, ça a des conséquences et ça peut saboter notre productivité. T'es d'accord avec ça?
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Et justement, on va commencer peut-être par un petit côté, avec ton parcours, en fait, parce que toi et moi, on a eu justement un jour cette fameuse prise de conscience. Et peux-tu nous raconter, toi, comment ça s'est produit? C'était quoi ton rapport en lien avec la caféine et qu'est-ce qui t'a amené là, dans une démarche de changement?
Alors, moi, il faut savoir déjà de base que j'étais un très, très gros consommateur de café. J'ai commencé à en consommer, je pense, comme tout le monde, en commençant à travailler, tout simplement. Et un jour, j'ai eu un enfant. C'était en 2016. Enfant qui n'a pas fait ses nuits durant quasiment 2 ans. Donc forcément, la fatigue s'est accumulée. J'ai compensé par le café. Jusqu'à boire, je dirais à son paroxysme, on était début 2019, c'est ça. Jusqu'à boire 3, quasiment 4 tiers de café par jour durant les 6 premiers mois de 2019. Donc, j'avais une très, très grosse consommation.
Juste une précision pour nos amis québécois, des fois. Quand tu dis cafetière, est-ce que tu parles une tasse de café, 3 à 4 tasses de café ou littéralement une cafetière?
Réellement une cafetière. Une cafetière italienne.
Donc, on parle de quoi? 8 tasses de café et plus, là?
Oui, j'étais à 8, 10 tasses, voire 12 tasses par jour de café. Je comptais même plus les tasses quasiment. Donc, je buvais du café du matin au soir en continu. C'était quasiment ma seule boisson de la journée.
OK. Continue, c'est bon.
Donc voilà un peu pour le massacre de base. Donc ça encore était lié, encore ça c'était lié encore une fois au fait que mon fils ne dormait pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est plus possible parce que j'ai remarqué que je prenais plus réellement du café pour l'effet énergétique du café, mais plus par habitude. Réellement, je prenais du café tout simplement à longueur de journée. Je ne prenais plus d'eau, je prenais que du café parce que c'était une habitude tout simplement. Je pouvais plus m'en passer au niveau psychologique. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est pas logique d'être dépendant à 100% du café. Certes, mon fils à l'époque ne dormait pas, mais ça justifie pas le fait que je boive 3 quasiment cafetières par jour de café pour me maintenir éveillé. Et là, je me suis dit qu'il y avait un petit problème quelque part, que c'était pas logique encore une fois. Donc j'ai creusé un peu le sujet de la caféine sur internet, et j'ai vu notamment tes deux articles très intéressants à propos du café. D'ailleurs, toi aussi, je crois que t'as un petit background avec le café dont tu nous parleras juste après, si t'as envie.
Ouais, et j'ai commencé à comprendre. Et je mettrai le lien des articles en question pour les auditeurs dans les notes de l'épisode.
Ils sont super intéressants, tes articles, Mathieu. Et du coup, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelques problèmes liés à la consommation de caféine. Déjà, le fait que le café rendait accro, tout simplement, ça t'en parle très bien dans tes articles. Mais surtout que le café aussi, comment dire, n'apportait pas tant d'énergie que ça au corps. C'était plus une énergie psychologique, on va dire, en quelque sorte. Ça, on en parlera après, si tu veux ensemble, plus précisément, au niveau du cerveau, comment ça se manifeste. Et aussi, je me suis rendu compte, en creusant encore plus ce sujet, que boire du café à outrance avait aussi des effets négatifs carrément sur la santé, sur les performances du cerveau, et même pouvait engendrer des risques de maladies assez graves. On parle de maladies neurodégénératives, telles que Alzheimer ou encore Parkinson. Et c'est donc toutes ces lectures-là, toutes ces formations-là que je me suis appropriées, on va dire, qui m'ont permis réellement d'arrêter le café assez rapidement et aujourd'hui de ne plus du tout en consommer du tout. Voilà un peu pour mon histoire par rapport au café, Mathieu.
Parfait. Et moi, pour faire ça court aussi de mon côté, pendant toute ma vie aussi, pareil comme toi, au début de ma carrière, quand j'ai commencé, j'ai commencé aussi à consommer du café, donc je devais avoir 18, 19 ans. C'est une habitude que j'ai pris rapidement et mon rythme était, moi, entre 2 à 3 cafés par jour de façon systématique. Et comme toi, c'était rendu une habitude. T'sais, dans le fond, je le consommais de façon inconsciente, comme je dirais probablement 99% des gens qui nous écoutent en ce moment. C'est très rare qu'on ait sensibilisé là, sur la consommation de caféine. Mais c'est ça, un jour, moi aussi, je suis tombé sur des articles, des livres qui parlaient de comment la caféine peut saboter vos performances professionnelles. Et moi, ça m'a vraiment frappé au visage parce que tu comprends que je suis un expert en productivité, j'enseigne ce sujet-là. Et moi-même, j'étais dans l'erreur de consommer trop de caféine et ça avait un effet contre-productif sur mes performances. Donc, c'est là aussi que moi aussi, j'ai entrepris plein de changements. Et aujourd'hui, je contrôle cette consommation de café-là. Aujourd'hui, moi, c'est maximum un café par jour. Ça, c'est sûr et certain. Et j'essaie d'alterner mes journées. Donc, j'essaie dans la semaine d'avoir peut-être 2 à 3 jours où est-ce que je ne prends pas du tout de café. Donc,
au final, si je fais un petit calcul simple, je dois boire entre 4 à 5 cafés par semaine, gros maximum. Et c'est beaucoup plus bénéfique au niveau de l'énergie que ça m'apporte, la stimulation. Et je pense que j'aimerais peut-être qu'on commence par ça pour entrer dans le vif du sujet aussi, Jérémy. T'sais, moi, un des faits qui m'a vraiment choqué, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance à la caféine. Il y a toutes sortes de recherches un peu plus poussées là, qu'on ne pourra pas tout élaborer en détail ici, là, mais il y a des recherches là, qui ont été faites qui démontrent que le cerveau s'habitue à la caféine. Et lorsqu'on est un consommateur averti, comme toi tu l'étais avant et moi aussi là, avec mes 3 cafés par jour, Le gain énergétique, la stimulation que la caféine apporte est de plus en plus diminuée, voire devient presque nulle lorsqu'on en consomme énormément. Donc, il y a tout un côté que moi, avec une approche d'être plus efficace, je me dis, une des raisons pourquoi je consomme du café, c'est parce que je veux avoir un stimulant. Oui, on est d'accord, exception ici, je sais que il y a beaucoup de gens, surtout en France, le petit café matinal, c'est un plaisir, c'est comme, à la limite, c'est quasiment culturel, social, de boire un petit café le matin, et on le fait pour le plaisir. Donc, je fais peut-être une exception ici des gens qui consomment vraiment un café juste pour le goût, pour le plaisir, mais je m'adresse peut-être un peu plus aux gens qui eux, sont en mode, moi, je veux être performant dans mes journées, et la caféine est un atout. C'est dans mon coffre à outils de productivité, consommer un café, pour moi, c'est comme un supplément, un petit boost que je peux aller chercher. Mais l'affaire, c'est lorsqu'on consomme de façon inconsciente de la caféine, ça vient créer un effet contre-productif. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ça, Jérémy, cet aspect-là d'accoutumance, puis le côté contre-productif que ça peut amener?
Ça marche. En effet, le café, on a tendance à dire que c'est un excitant, que c'est un booster un peu de performance, alors qu'au final, le café réellement a un effet plus sur le cerveau et non pas réellement sur l'énergie. En fait, dans le cerveau, tu as des récepteurs, tu les connais Mathieu parce que tu as écrit un article dessus, qui s'appellent les récepteurs à adénosine. Alors, qu'est-ce que l'adénosine ? Simplement, c'est un marqueur de fatigue. Logiquement, quand tout se passe bien le matin, quand tu vas te réveiller, ton cerveau est vide en matière d'adénosine, si ta nuit a été bonne, bien évidemment. Et donc, ton cerveau est au niveau zéro, on va dire. Et plus tu vas commencer à faire des efforts dans ta journée, efforts qui peuvent être intellectuels, qui peuvent être physiques ou autres, peu importe, plus ces efforts vont être intenses, plus ton cerveau va produire de l'adénosine pour dire « Ok, là, j'ai fait un effort, je me sens maintenant fatigué. » Et dès que tous les récepteurs à adénosine sont pleins, sont, on va dire, complétés par les molécules d'adénosine, plus ton cerveau va se dire, en fait, tout simplement, il faut que j'aille dormir pour me reposer et pour remettre les niveaux à zéro. Maintenant, où intervient la caféine ici ? C'est simple. En fait, la caféine a une molécule qui est semblable à l'adénosine en termes de forme. Et du coup, elle vient prendre la place de l'adénosine dans les capteurs du cerveau. Et c'est pour ça que je dis que le café n'est pas réellement un produit énergétique en tant que tel, mais c'est plus au final un bloqueur de fatigue en quelque sorte. Ça va bloquer les récepteurs de la fatigue dans le cerveau. Et c'est là que l'accoutumance rentre en jeu. Pourquoi ? Parce que le cerveau se dit « Ok, là Mathieu il a bien bossé aujourd'hui, mais pourtant il n'est pas fatigué. Il y a un truc qui ne va pas. Où est passée mon adénosine ? Elle ne fait pas son effet, c'est pas logique. Du coup, moi cerveau, qu'est-ce que je fais ? Je réagis. Et comment je réagis ? Je réagis en créant plus de récepteurs à adénosine. Et donc forcément, le café va se greffer sur les nouveaux récepteurs. Et le souci ici, c'est que maintenant on a plus de récepteurs. Et donc forcément, pour combler tous ces récepteurs-là grâce à la caféine, il faudra prendre plus de café. C'est pourquoi au début, quand on commence à consommer du café, un seul café suffit. Un café, t'es plein d'énergie, t'es plein de forme, tu sens plus la fatigue du tout, t'es nickel. Par contre, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, un seul café, ça te suffit plus. Tu passes à deux. Après, tu passes à 3, à 4, à 5. Et au final, au fur et à mesure, ton cerveau s'habitue de plus en plus. Il crée de plus en plus de récepteurs d'adénosine, ce qui fait que ta tasse habituelle de café ne va plus jamais suffire à réellement te donner cette sensation d'énergie que tu recherchais, toi, à la base. Et c'est pour ça qu'on parle d'accoutumance au café.
Et ça, tu sais, quand on parle d'accoutumance, c'est le même principe avec toute autre substance que vous pourriez consommer. Là, par exemple, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool ou qui consommerait du cannabis, c'est le même principe. C'est pourquoi, mettons, quelqu'un qui n'a jamais pris un verre d'alcool de sa vie va en prendre un et parfois peut même sentir les effets, là, être frappé par l'alcool, alors qu'un buveur régulier, lui, il peut prendre 5-6 bières et il ne sent absolument aucun effet de l'alcool. Donc, c'est l'accoutumance, là, c'est le fonctionnement qui est similaire à ce que Jérémy vient d'expliquer avec la caféine. D'ailleurs, honnêtement, peut-être que là, si c'est des termes que vous avez jamais entendus, peut-être qu'à ce moment, vous avez de la misère à visualiser là, ce que la question des récepteurs d'adénosine. Pardon. Allez sur l'article que je vous ai mis dans les notes de cet épisode. J'ai justement mis une image dans l'article où est-ce qu'on on présente un genre de petit schéma là, de comment les récepteurs se produisent et se multiplient. Vous allez voir une image, vaut mille mots, et vous allez beaucoup mieux comprendre le principe que Jérémy vient de nous partager. Et c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu apportes aussi, parce que moi, j'ai souvent pensé que le café est un stimulant énergétique. T'sais, un peu comme, par exemple, tu bois un verre de jus d'orange, mais le jus d'orange étant rempli de sucre, de glucides, là, ça apporte vraiment un apport énergétique. T'sais. La caféine, en fait, c'est pas ça. Quand on boit un café, il n'y a pas de glucides à proprement dit. C'est pas une stimulation qui vient du sucre ou d'un truc comme ça. C'est vraiment... en fait, c'est que ça vient bloquer, ça empêche le cerveau, à travers les récepteurs, de ressentir la fatigue, tout simplement. C'est ça, en fait. Ça vient comme biaiser le cerveau.
C'est ça. Il y a un peu, effectivement, quand même, d'apport de sucre, notamment parce que la caféine déstocke le sucre présent dans le corps. Et aussi, souvent, les gens accompagnent leur café de sucre, ce qui peut aussi un peu biaiser l'effet.
Ouais, ouais.
Donc après, au niveau du jus d'orange, effectivement, c'est y a un effet réellement sucre en plus dans le corps, notamment au niveau du glucose sanguin qui va augmenter. Après, le problème du jus d'orange, des produits sucrés, c'est que peu de temps après la consommation, le niveau de sucre va chuter très rapidement, et du coup, tu vas à nouveau être fatigué. Ça, c'est un autre sujet intéressant, mais effectivement, les boissons sucrées donnent pas réellement d'énergie sur le long terme.
Ouais, absolument. Donc, alors, le problème de la caféine, parce que c'est vraiment ce que je veux apporter aujourd'hui dans cet épisode, le problème de la caféine, c'est que lorsque tu en bois trop, en réalité, ton simple café, mettons, tu en bois juste un, ça n'apporte plus le stimulant de base parce que ton cerveau a multiplié les récepteurs. Donc, pour avoir le même niveau de stimulation que tu avais au départ, en fait, faut que tu n'as pas le choix d'augmenter ta dose, donc tu n'as pas le choix de boire 3 cafés pour ressentir un quelconque bénéfice. C'est bien ça.
C'est bien ça. C'est comme ça que j'en suis arrivé à boire 8, 10, 12 cafés par jour début 2019.
C'est excellent. Et moi, c'était pareil. Honnêtement, c'était pareil. Et bon, suite moi à cette prise de conscience-là, il y a quelques années, ben, je me suis dit, écoute, je dois absolument changer ça. Je ne me permets plus de boire 3 cafés par jour. Je veux avoir cette stimulation-là avec seulement un café. Alors moi, personnellement, j'avais entrepris une démarche de une genre de cure pour vraiment comme repartir à zéro et ensuite développer une nouvelle habitude de consommation. C'est une de mes questions pour quelqu'un justement aujourd'hui qui se dit « Les gars, je m'identifie à vous, je bois 5 cafés aujourd'hui depuis des années et je n'en ressens plus les effets stimulants. Comment je fais pour comme me libérer de mon accoutumance, repartir à zéro? » Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait changer ça dans sa vie?
Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas faire l'erreur que moi j'ai faite, à savoir arrêter du jour au lendemain. Je suis assez extrémiste dans mes démarches à moi personnellement, donc du jour au lendemain, j'ai coupé mes 12 tasses de café et j'ai arrêté d'en boire. Mm-hmm. Et depuis, j'en bois
t'as
plus du tout.
Tu as dû avoir un énorme mal de tête.
Oui, c'est ça, mal de tête parce qu'encore une fois, le corps était habitué au café. C'est une dépendance pour lui, c'est une drogue pour lui. Du coup, j'ai eu un très gros mal de tête durant 2-3 jours. Après, il y a encore d'autres effets négatifs auxquels j'ai échappé, notamment des personnes se plaignent aussi de douleurs musculaires, se plaignent d'états grippaux, de manque de concentration. Voilà, moi j'ai un peu échappé à ça par chance, façon de parler. Par contre, le mot tête, là, j'y ai pas échappé. Donc réellement, si vous voulez arrêter le café, ne faites pas l'erreur comme moi de le faire du jour au lendemain. C'est une grave erreur à s'auto-éviter. Comment faire pour le faire intelligemment? T'en parles dans un article, je crois d'ailleurs Mathieu de mémoire, c'est le fait de faire ça progressivement. Idéalement, il y a un protocole qui existe, qui est assez intéressant à suivre, c'est un protocole sur 2 mois. Où on va, durant le premier mois, diminuer progressivement ses apports en caféine. Alors, j'ai plus le protocole précisément en tête, peut-être que tu le connais toi, Mathieu, un peu plus que moi. L'idée, je crois, c'est de diminuer déjà 2 cafés par jour au départ, durant la première semaine. Après, en semaine 2, je crois qu'on passe à 1 café par jour, qu'on peut compléter avec du déca. Après, en semaine 3, on doit passer à 1 café tous les 2 jours, et après, je crois que c'est 2 cafés par semaine, durant la 4e semaine. Et une fois arrivé la 4e semaine, là, l'objectif est de se sevrer complètement de café durant 1 mois. Pourquoi 1 mois? Simplement parce qu'en 1 mois, le cerveau aura le temps, de son côté, de nettoyer les récepteurs à adénosine qu'il a créés en trop pour resetter le cerveau en quelque sorte, pour le remettre à zéro. Comme ça, la prochaine fois qu'on va prendre du café, si on en reprend bien évidemment, chose que je ne conseille pas spécialement, ça on en parlera après, le café fera réellement effet sur le cerveau cette fois-ci, vu que le cerveau sera déshabitué du café durant ce mois de sevrage. Donc voilà le protocole, je pense, qui est le plus intéressant à suivre aujourd'hui. Et surtout, encore une fois, ne faites pas l'erreur de couper du jour au lendemain.
Exactement. Et vraiment, oui, le protocole, je l'ai devant mes yeux. C'est exactement ça.
C'est ça. Super.
Moi, j'avais fait la même erreur également. J'avais voulu couper de façon drastique ma consommation de café. Honnêtement, ça me donnait d'énormes migraines. Donc, écoute, c'était vraiment intense. C'est là que tu vois que, waouh, c'est une addiction et je pensais pas que c'était aussi puissant que ça. Mais effectivement, donc, pour résumer, donc, si vous voulez vous sortir un peu de cette accoutumance-là, donc, première semaine, on limite à 2 cafés par jour. Donc, disons que vous en buviez 4 par jour, 5 par jour, vous diminuez à 2 par jour pendant la première semaine. Semaine 2, on limite plutôt à 1 seul café par jour. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est très intéressant pour des gens qui aiment vraiment boire le café pour le goût du café, vous pouvez alterner une journée avec un vrai café caféiné et une journée avec un café décaf, donc sans caféine. Donc ça vous permet au moins d'avoir le goût du café sans avoir toute la caféine, en fait, que ça contient. Semaine 3, on diminue, donc environ 4 cafés dans toute la semaine, donc sur 16 jours. Et semaine 4, 2 cafés dans toute la semaine, donc 2 cafés sur un horizon de 7 jours. Ensuite, l'autre mois, c'est un sevrage complet, donc pas de caféine. Et j'avais aussi lu quelque part que faut faire attention aussi aux autres aliments et produits qui contiennent de la caféine. Je pense au chocolat, disons un Coca-Cola, évidemment, qui contient de la caféine et les trucs du genre. Parce que si tu es dans ton sevrage et que tu te bois un Coca-Cola, ben il y a un apport en caféine. Un peu moins élevé, mais il y en a quand même.
Il y a un apport, comme tu le dis, oui. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure, je pense. Parce que j'ai fait l'erreur de consommer plusieurs mois après avoir arrêté des tablettes de café. Bon, on va parler maintenant, c'est peut-être l'occasion. Ouais. En fait, le café, il y a plusieurs effet négatif sur la santé quand on en consomme trop. Donc ça, on en parlera un peu plus après, je pense. Et donc, j'ai trouvé un produit de substitut, on va dire, qui sont les tablettes de café, où là, en fait, la production est intéressante. Pourquoi ? Parce que les personnes qui font ces tablettes-là prennent réellement le fruit du café pour faire la tablette, et non pas uniquement la graine du café. Autrement dit, ces tablettes sont beaucoup plus riches en antioxydants, qui sont des éléments, on va dire, protecteurs par rapport au cerveau et au corps. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Ça peut être sympa, on peut essayer, on peut goûter, le produit est intéressant, j'aime beaucoup la démarche, j'aime beaucoup l'idée. J'en ai pris et je suis tombé accro à ces tablettes, directement. J'en ai pris une et j'ai vidé la boîte de 15 tablettes, je crois, en 3 jours. Donc je me suis dit, stop, on arrête. T'as réactivé le circuit de la dépendance, on stoppe ici, on arrête les conneries, maintenant c'est plus une seule goutte de caféine. Parce que le problème, c'est qu'au niveau du cerveau, en fait, quand tu crées une habitude comme le fait de consommer du café, quand tu crées une dépendance, tu crées un chemin neuronal, tout simplement. Et le chemin neuronal, plus tu vas l'utiliser, plus il va se densifier, plus il va être épais. Et donc, plus naturellement, ton cerveau va l'emprunter. C'est pourquoi, quand tu es accro à quelque chose, et si tu fais un sevrage, et si tu reprends une goutte de cette chose-là, tu vas réactiver l'ancien chemin neuronal. Et tu retombes immédiatement dans l'addiction. C'est exactement ce que subissent les anciens alcooliques, par exemple, qui, eux, arrêtent pendant des années. S'ils boivent une goutte d'alcool, parfois, ça peut directement tout ruiner le travail qu'ils ont fait en amont durant des années et des années. Donc attention à ne pas justement prendre des autres aliments qui contiennent de la caféine quand on arrête de boire du café. Même durant ce mois de sevrage, il ne faut pas en prendre. T'as bien raison de le préciser. Mm-hmm.
Et là, on va aller sur le point, justement, c'est que toi, je pense que tu as une position aujourd'hui, c'est ça, tu es conscient qu'il y a des conséquences à la caféine et tout, tu vas nous en parler, mais après le sevrage, moi, personnellement, de mon côté, après mon sevrage, quand j'ai passé à travers cette démarche-là en 2 mois, moi, j'ai recommencé à boire de la caféine, mais très modérément, comme je l'ai déjà partagé. Là. Donc, environ quoi, 4 à 5 cafés par semaine, gros maximum. Les journées étaient espacées. Et même souvent, dès que je pouvais prendre un café décaféiné, je le prenais. Et automatiquement, moi, personnellement, j'ai été capable de retrouver la stimulation énergétique que je recherchais dans la caféine, parce qu'il faut comprendre que, oui, moi, je bois du café pour le goût, mais j'en bois surtout pour les fins de mes performances au travail. T'sais, par exemple, si j'ai un article de blog à écrire, j'ai besoin d'énormément d'énergie mentale. Donc, le café, pour moi, c'est un outil. Ça fait partie de mon coffre à outils de productivité, comme je l'ai mentionné. Donc, pour ma part, après mon sevrage, j'ai recommencé à boire du café avec une approche plus saine et qui m'apporte une stimulation. Mais toi, je pense que tu as un avis différent là-dessus. Donc, toi, tu serais plutôt du genre quasiment à dire ne bois juste plus de café du tout. Est-ce que c'est un peu ça?
C'est ça, complètement. Et juste avant de t'expliquer le pourquoi du comment, pour aider les gens à réellement se sevrer durant un mois s'ils veulent suivre le protocole, petit conseil, cachez votre machine à café. Parce que si vous la voyez, bon, vous allez en prendre. Et deuxième conseil, achetez que du café immonde. Comme ça, si vous voulez en prendre, le café ne sera pas bon, il va vous dégoûter. Au moins, ça va freiner un peu la barrière d'accès au café, ça va limiter potentiellement l'envie d'en prendre. Maintenant, pourquoi effectivement je ne recommande plus aux personnes de boire du café ? Parce que le café, j'ai creusé pas mal le sujet, c'est très mauvais pour la santé. En tout cas, c'est très mauvais pour la santé dans le sens où on produit du café aujourd'hui. Je m'explique. On a un monde aujourd'hui qui est globalisé. Autrement dit, il y a beaucoup de firmes qui sont implantées partout dans le monde. Et là, je pense notamment à des firmes comme Starbucks. Et où le consommateur de café veut que son café ait le même goût partout dans le monde. Et du coup, comment font les firmes pour harmoniser ce goût-là ? C'est simple, elles prennent les cannes de café, généralement de mauvaise qualité, pour faire des économies à la base. Et surtout, elles vont les surtorréfier. Autrement dit, elles vont faire cramer les graines de café. C'est pour ça que le café a un goût qui est très cendré aujourd'hui. Un vrai café qui n'est pas trop torréfié a un goût de fruit. Un vrai café, c'est comme du vin, si tu préfères, Mathieu. Ça a des arômes. Ça sent la terre, ça sent la plante, ça sent les fleurs. Alors que le café qu'on boit chez Starbucks ou en machine, il a un goût de cendre. Je suis désolé, mais il a un goût de cendre, il a un goût de biscotte grillée, il a un goût de cendrier, peu importe. Mais il a un goût de cendre. Et ce goût de cendre met en évidence le fait que ce café-là, en fait, il est plus bon pour la santé. Dans le sens où il contient beaucoup de radicaux libres. Alors qu'est-ce qu'un radical libre ? En fait, c'est une molécule que j'aime qualifier de zombie, tout simplement, qui vient manger, littéralement, qui vient détruire les cellules saines de ton corps. Et à cause de ça, ça va accélérer le processus de vieillissement de ton organisme, à la fois de la peau, à la fois des yeux et à la fois aussi du cerveau. Ce qui peut donc engendrer directement une baisse de tes neurones, ce qui peut créer des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Et quand on boit 5 à 10 cafés de mauvaise qualité par jour, on va considérablement donc augmenter ses risques de maladies dites neurodégénératives encore une fois. C'est pourquoi moi je recommande à tout prix d'arrêter de café tout simplement. C'est un peu terrible comme constat, j'en ai conscience. Hein. Mais voilà, c'est en partie la vérité quand on consomme trop de café. En tout cas du café de mauvaise qualité encore une fois.
Ok, deux choses que j'aimerais préciser. Déjà, bon, toi, tu parles du café, disons, Starbucks, où est-ce que c'est produit du gros volume en chaîne à l'échelle mondiale. Mais par exemple, moi, le café que j'achète personnellement, moi, je vais dans une petite brûlerie du coin à côté de chez moi. T'sais, c'est des produits, dans le fond, eux autres vont torréfier leur café eux-mêmes à tous les jours. Donc, tu sais, c'est un processus là, qui est beaucoup plus maison, si on veut, là, et non pas commercial, grande échelle. Donc, déjà là, est-ce que tu qualifierais peut-être ce type de café-là de meilleure qualité par rapport à le café, mettons, plus commercial, qu'on pourrait dire?
Complètement, je vais apporter la distinction avant que tu me le dises. Effectivement, il y a une vraie différence entre le café du torréfacteur local, on va dire, idéalement un café bio en plus, avec le café qu'on trouve soit dans le commerce, soit dans les machines à café à l'entreprise, ou soit encore pire dans les dosettes. Donc oui, il y a une vraie différence entre le café-là que tu prends toi, Mathieu, et le café, on va dire, couramment consommé par les gens.
OK. Donc ça pourrait valoir la peine pour quelqu'un, en tout cas, qui veut continuer d'en boire, d'aller peut-être plus vers du café biologique ou avec des brûleries, là, comme on appelle ici, plus local, plus non, maison.
Et
d'accord.
Puis c'est bête à dire, mais vu que tu consommes moins de café, ouais, forcément, ça va te coûter moins cher. Autant réinvestir cet argent-là dans du bon café, pour prendre plaisir à boire du café, ouais, et non pas pour le boire machinalement, comme on le fait tous aujourd'hui.
C'est pas fou, c'est un excellent point. Et toi, tu disais, bon, t'avais une approche, c'est ça, un petit peu plus radicale, dans le sens, ne buvez pas de café à cause des conséquences. Que penses-tu d'une approche plus modérée? Tu sais, je me dis, mettons, parce que, regarde, si on faisait une étude sur les conséquences de l'alcool, par exemple, bon, on en arriverait avec un constat similaire. Tu sais, l'alcool, écoute, j'ai pas étudié en profondeur le sujet, mais ça a des conséquences sur le foie et plein d'autres trucs. Donc, on est d'accord, quelqu'un qui va se boire 2 bouteilles de vin par semaine, boire un pack de bière toutes les semaines, oui, sur le long terme, il va y avoir des conséquences. Mais quelqu'un, par exemple, qui aime seulement prendre un verre, un petit verre de vin le week-end, prendre une bière avec ses amis la semaine, tout en étant dans la modération. Là, je parle pas ici de s'enfiler 6 bières, mais boire une bière pour le goût, pour le plaisir. Oui, on est conscient que, mettons, boire de l'alcool peut venir avec des conséquences, mais étant donné que c'est une consommation qui est modérée, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que toi, au niveau du café, qu'est-ce que tu penses d'une approche peut-être plus modérée de quelqu'un qui se dit, regarde, au lieu d'en boire 12 par semaine, je vais en boire 4 par semaine du café? Est-ce que, selon toi, c'est néfaste au niveau des conséquences et tout ça?
Non, techniquement, non. Si l'approche est raisonnée comme toi, tu l'entreprends, il n'y a pas de souci si le café est de qualité déjà de base. Très clairement, ça joue beaucoup. Si après l'approche est raisonnée encore une fois, donc ça on en parlera aussi après tous les deux par rapport à quand boire son café, parce que c'est très intéressant ça aussi à avoir à l'esprit. Non, là je peux le conseiller. Après, le problème que j'ai moi de mon côté déjà, c'est que de base je suis assez radical quand je fais des choses. Et deuxième problème, c'est que j'ai été accro au café. Et comme je te l'ai dit, du coup j'ai un circuit neuronal qui est créé. Si je le réactive, je vais retomber accro. Donc moi, pour moi c'est stop, c'est un no-go, j'arrête le café, on n'y touche plus. Donc c'est pour ça que je suis aussi extrême dans mes démarches et j'aime bien aussi être extrême avec les gens, comme ça les fait réagir réellement. Quand tu dis que le café ça a tels effets négatifs, ça a tels effets négatifs et tels effets négatifs, les gens au moins prennent conscience des choses. Et quitte à ce qu'elles n'arrêtent pas, elles vont au moins diminuer le café, ce qui est le plus important je pense aujourd'hui. Et le consommer comme toi, encore une fois, de façon raisonnée au quotidien. Donc oui, une consommation intelligente du café est même préconisée, je veux dire, c'est intéressant pour la santé, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut y aller.
Et que penses-tu du décaf dans tout ça? Parce que tu sais, il y a vraiment des gens là. Moi, je suis marié avec une Française et tu sais, je sais que culturellement, boire le petit café au réveil et tout, c'est comme, en tout cas, de ce que je sais, c'est très commun, très populaire. Que penses-tu, mettons, quelqu'un qui se dit, oui, je suis conscient, je veux diminuer la consommation de caféine à proprement dit, mais je vais peut-être me tourner vers du décaf comme ça. Moi, j'ai le goût, mais je n'ai pas toutes les conséquences, la stimulation de la caféine. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Oh, je pense que le DK est une très bonne alternative, évidemment, à condition, encore une fois, que le DK soit de qualité. Parce que certes, effectivement, il n'y aura pas l'effet de la caféine, mais si le DK est très mauvais, s'il est surtorréfié, etc., les effets négatifs sur la santé seront encore présents eux, et du coup, certes, il n'y aura plus l'aspect accoutumance, mais l'aspect réellement dégradation de la santé à petit feu, lui, sera toujours présent. Donc si le DK est bio, s'il est de qualité, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Si ça peut aider les gens à arrêter la caféine à proprement parler, ok, le DK, c'est cool, il faut en prendre.
OK, parfait. Bon, dernière question qui va être quand même une bonne question, mais comment on boit du café intelligemment dans le but d'aller chercher un maximum de stimulation, de gains énergétiques?
Alors, intelligemment, en fait, il faut avoir une notion à l'esprit au niveau du corps, déjà pour commencer. Le corps et le cerveau fonctionnent selon un rythme qui s'appelle le rythme circadien. Circadien, ça veut dire quoi? C'est l'alternance entre le jour et le nuit, tout simplement. Et en fait, en fonction de l'heure de la journée, le corps va produire des hormones qui sont différentes, soit pour nous endormir, soit pour nous éveiller. Et dans ces hormones figure le cortisol. Le cortisol, en fait, c'est un déstockeur d'énergie pour le corps. Donc dès que le corps en produit, on a de l'énergie naturellement. Et on a 3 pics de cortisol par jour. On en a un, le principal, le matin, généralement autour de 8 à 9 heures, jusqu'à 10 heures à peu près. On en a un deuxième qui survient de 12h à 13h et un dernier qui est situé, on dit, entre 17h30 et 18h grosso modo. Et donc, si toi tu bois un café à ce moment-là, en fait, il sert à rien. Pourquoi? Parce que si on prend l'analogie du téléphone portable, c'est comme si durant ces plages horaires-là, ton téléphone était chargé à 100%. Et toi, avec un café, tu veux le charger encore plus, mais tu peux pas. Le téléphone est déjà à 100%, tu vas pas monter à 110%. Donc, boire du café entre 9h et 10h, entre 12h et 13h, entre 17h30 et 18h ne sert à rien, tout simplement. Et au contraire, ça va même favoriser l'accoutumance, encore une fois. Donc, boire intelligemment du café, en fait, c'est boire du café quand les pics de cortisol commencent à chuter. Donc, soit très tôt le matin, même si c'est pas un conseil que je peux donner, soit entre 10h et 11h, ou soit autour de 14h. Et surtout, il ne faut jamais boire de café, idéalement après 14h. Pourquoi? Parce que le café a une demi-vie. Alors demi-vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le temps durant lequel 50% de la molécule de café reste dans le corps. Une demi-vie qui dure entre 4 et 6 heures. Donc si on boit un café à 14 heures déjà, ça fait qu'il y aura potentiellement encore de la caféine dans le corps jusqu'à 20 heures le soir. Et la caféine, encore une fois, ça bloque les récepteurs à adénosine. Donc ça efface la sensation de sommeil. Ce qui fait qu'on risque de se coucher plus tard et surtout de moins bien dormir. Et quand on sait... On en a parlé ensemble, Mathieu, dans l'épisode 29. Quand c'est les effets importants qu'a le sommeil sur la productivité, sur l'efficacité, sur la concentration, sur la motivation et même sur la santé, boire du café trop tard nous empêche de bénéficier de ces effets-là. C'est pourquoi, idéalement, en fait, on boit un café tout simplement entre 10h et 11h et, idéalement, juste après 13h et après, on arrête. Et là, c'est parfait.
C'est excellent. Moi, tu vois, ça fait partie des changements que j'ai faits. Autrefois, ma routine matinale, c'était, je me levais vers 6h, 6h30 le matin. Tout de suite, mon réflexe. Moi, je programmais d'avance ma cafetière la veille avant de me coucher et mon café coulait. Il était programmé pour couler automatiquement à 6h30 le matin. Donc, moi, tu comprends que je me levais, je buvais mon grand verre d'eau parce que c'est important de s'hydrater au réveil. Mais tout de suite, j'enchaînais avec un café pendant que je prenais un temps personnel pour moi avant ma journée de travail. Mais lorsque j'ai vu ces études-là là, par rapport à la cortisol qui est... Moi, j'avais vu la cortisol, c'est en quelque sorte l'hormone de l'éveil, là, dans le fond. C'est que ça t'amène à un niveau de vigilance et tout ça.
L'éveil et
donc,
le stress.
Donc, naturellement, comme Jérémy... Exact. Comme tu viens de dire, quand tu te lèves, nécessairement, si tu as eu une bonne nuit de sommeil, t'es réveillé, t'as ce cortisol-là que le corps va générer. Donc, t'as un niveau d'énergie qui est déjà présent. Donc moi, au début, ben, je consommais mon café dès le réveil, vers 6h30 le matin. Mais au final, c'était contre-productif, dans le fond, parce qu'au réveil, directement, j'ai déjà une énergie naturelle que mon corps produit. C'est pourquoi que maintenant, j'essaie vraiment de me discipliner à boire mon café vers 10h le matin. 10h, 10h30. Et là, c'est génial. C'est vraiment le moment idéal parce que je sens, même physiquement, je sens vers 10h, 10h30 une petite baisse d'énergie. Alors là, quand je prends mon café, c'est là que vraiment je vais chercher le maximum de stimulation. Évidemment, il faut avoir fait la cure avant pour avoir cette stimulation-là, parce que vous comprenez que si vous buvez 8 cafés par jour, ça vous prend 8 cafés là, pour aller avoir cette stimulation-là. Là. Donc, la cure qu'on vous parlait est nécessaire à faire. Mais donc, en gros, il y a un moment où est-ce qu'il faut consommer du café? Il faut être stratégique, il faut faire attention à ça. Donc, quand on boit de la caféine dans le but d'aller chercher un gain de performance, il faut prendre ça en considération. Et Jérémy nous a bien résumé, en tout cas, les moments où est-ce qu'on devrait en consommer. Avais-tu une dernière chose à rajouter avant qu'on clôture l'épisode aujourd'hui où on a fait le tour du sujet?
Une dernière chose à rajouter, pourquoi pas, oui, potentiellement par rapport à l'aluminium. Parce que beaucoup de personnes consomment des capsules en café Nespresso, pour pas citer la marque, qui sont avec un opercule en aluminium. Et l'aluminium, encore, ça n'a pas encore été prouvé. Mais il semblerait que ça peut détraquer le cerveau. Dans le sens où le cerveau fonctionne par des courants électriques, et l'aluminium est un métal. Donc ça peut faire des dysfonctionnements au niveau de la communication dans le cerveau entre les neurones. Donc c'est pourquoi je pense que les capsules sont réellement à éviter, tout simplement. Il faut mieux privilégier le café directement en grains ou moulu plutôt que les capsules de café.
Bon, ben, tu confirmes mon bon choix avec ma conjointe en début d'année. Cette année, on a viré la machine Nespresso. D'ailleurs, ça coûtait juste trop cher.
Oui,
acheter
trop
un
cher
pack de dosettes, ça n'a aucun sens. Et là, on s'est acheté une machine Nespresso maison où est-ce que tu peux broyer tes propres grains bio, justement. Donc, tu confirmes que j'ai pris la bonne décision.
C'est ça. Et tout aussi.
Après, libre à vous. Hein, si vous buvez du Nespresso, soyez en paix. Hein, c'est toute une question de choix personnel. Mais c'est bon, en tout cas, d'entendre des avis d'experts comme Jérémy qui nous mettent en garde là, sur des trucs comme ça.
Et aussi, dernière chose, je pense, qui peut être intéressant à mettre en évidence, et j'ai parlé tout à l'heure de tablettes de café. Franchement, je pense que tu devrais essayer, Mathieu, c'est un super produit. Je sais pas s'il y voit chez toi, mais je pense que oui. Ça s'appelle Pixel Coffee. Et encore une fois, c'est du café en tablette, et là, ils prennent encore une fois tout le fruit du café, avec toutes les vertus du fruit du café, et le fruit n'est pas brûlé encore une fois. Donc réellement, c'est comme du café, c'est comme un expresso, tu auras le même effet coup de boost, avec plus d'effets positifs sur ta santé. Donc réellement essayer ce produit-là, l'initiative intéressante. En plus, c'est une vraie démarche, on va dire, éco-responsable où les producteurs sont bien payés. Donc ça vaut le coup d'essayer au moins une fois, je pense.
Parfait, tu pourras me donner le lien puis on le mettra dans les notes du podcast si jamais. Je ne sais pas s'il y a ça au Canada, mais en tout cas, de ton côté en France, les gens pourront jeter un coup d'œil à ça, certainement. Bon, ben écoute, on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Juste en terminant, t'as justement créé une nouvelle formation gratuite de ton côté là, sur des sujets vraiment intéressants, tout ce qui traite justement de la performance cognitive, donc les performances mentales, les performances du cerveau. Veux-tu glisser un petit mot là-dessus sur ta formation? Puis tu la proposes gratuitement aux gens d'ailleurs aussi. Là.
Yes, c'est un programme d'initiation, comme je l'ai appelé en fait. On découvre ensemble plusieurs outils pour optimiser le fonctionnement de son cerveau, comme la chronobiologie dont on a déjà parlé ensemble, comme également une stratégie pour multiplier jusqu'à par 60 la vitesse du cerveau, pour booster ainsi les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Également, on parle de techniques issues de la Grèce antique pour mieux mémoriser et j'en passe. Donc ouais, c'est un programme qui est assez complet, qui dure 5 modules, il est assez court à suivre. Je dirais que chaque module dure environ une dizaine de minutes. Et encore une fois, comme tu le dis très bien, c'est 100% gratuit. Donc si jamais ça peut intéresser tes auditeurs, je t'enverrai un lien pour le partager.
Parfait, on met ça dans les notes de l'épisode aussi. Donc, il y a beaucoup de contenu pour vous, beaucoup de liens à aller voir. C'est un épisode très riche, très
dense.
Recherché aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, Jérémy, merci d'être passé à nouveau sur le podcast. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Et certainement que dans le futur, tu vas revenir ici parce que, comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans l'introduction, on a une belle approche complémentaire là, pour traiter du sujet de la productivité. Donc, t'es le bienvenu ici.
Je reviens quand tu veux, Mathieu. Avec grand plaisir, sincèrement. C'est toujours un plaisir de parler avec toi.
Pareillement. Bon, ben salut!
Salut, à plus!
Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Faites attention à votre consommation de caféine. Je sais que ça peut paraître un sujet banal et que parfois on peut se dire c'est quoi le lien entre ça et la productivité, mais comme Jérémy l'a si bien expliqué, il y a différents enjeux à prendre en compte, l'accoutumance et toutes ces choses-là, et aussi les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Alors, gardez ça à l'esprit. Je vous encourage à ajuster votre consommation de café pour le boire de manière à ce que ça vous apporte une certaine stimulation, que ça vous aide dans vos performances au travail et dans la vie. Faites ça, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi comment vous vivez ça. Je sais que pour moi, les premiers jours de ma fameuse cure, ça a été difficile. Alors, bien curieux de savoir comment ça va se passer de votre côté. Si vous avez des questions, des commentaires, vous savez qu'en tout temps, vous pouvez vous rendre sur mon site web au mathieuderoche.com/47. Donc, pour l'épisode 47, il y a une zone de commentaires, vous pouvez laisser votre message là. Et voilà, je vous encourage aussi à aller cliquer sur le lien de la formation que Jérémy vous a proposé, c'est tout à fait gratuit. Merci à tous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode.